Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les échos du Grand Saint-Barthélemy sur le 88.4 de la bande FM et un DAB+ sur Radio Galère. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur l'histoire d'une association qui est emblématique de notre territoire, Cheba, qui est l'association la plus ancienne du Grand Saint-Barthélemy. Derrière cette histoire associative se dessinent plus de 40 années de vie de quartier de solidarité, de mobilisation et d'engagement. C'est l'histoire de femmes et de familles confrontées à des conditions de vie souvent difficiles, à l'isolement, aux discriminations, mais aussi à la volonté de prendre leur place dans la société et de faire entendre enfin leur voix. Car trop longtemps, les réalités vécues dans les quartiers populaires sont restées invisibles. Karima pourra en parler longuement. Pourtant, des habitantes se sont organisées. Elles ont porté des revendications et construit des réponses collectives aux difficultés rencontrées au quotidien. C'est dans ce contexte qu'est née Cheba, sous l'impulsion de femmes militantes, pour la plupart formées et engagées au sein même du territoire.
Au cours de cette émission, nous remplacerons cette aventure dans le contexte historique, social et politique. Nous reviendrons sur les années 1980, marquées par l'installation durable des familles immigrées dans les quartiers populaires. Les luttes pour l'égalité des droits, les mobilisations contre le racisme et l'émergence des associations de femmes. Nous nous interrogerons également sur la manière dont Cheba a traversé les transformations urbaines, les évolutions des politiques publiques et des mutations du monde associatif, tout en poursuivant son engagement auprès des habitantes. Enfin, nous aborderons les défis d'aujourd'hui, la précarisation du secteur associatif, la transmission des engagements militants, la place des femmes dans les dynamiques citoyennes, les discriminations persistantes et la nécessité de préserver des espaces d'émancipation populaire.
Et oui, donc pour nourrir cette réflexion, nous avons des invités qui nous accompagneront tout au long de l'émission. Nous aurons notamment le plaisir d'accueillir par téléphone Zoubida Megheni, qui est l'une des fondatrices de Cheba. Et là, parmi nous, nous avons Najet, qui est la présidente actuelle de Cheba. Elles témoigneront de la naissance de l'association, de son évolution et de la continuité de son engagement grâce à Nina qui est présente parmi nous. Donc à leur côté, nous retrouverons également Karima, notre passage de mémoire que l'on ne présente quasiment plus, passage de mémoire surtout du territoire. Françoise Arles qui devait être parmi nous, mais malheureusement elle ne peut pas parce qu'elle a d'autres raisons que l'on peut tout à fait comprendre, mais elle pense à nous. Il y a Jean-Pierre qui est le témoin privilégié de cette période, là aussi. Et Nina, dont je viens juste de parler et qu'elle présentera, et que c'est la nouvelle génération d'engagement qui incarne aujourd'hui la relève de Cheba. Ensemble, nous tenterons de comprendre ce qui fait, depuis plus de 4 décennies, la force et la singularité de cette association profondément ancrée dans la vie du Grand Saint-Barthélemy. Mais avant d'ouvrir cette page d'histoire et de mémoire collective, nous vous proposons une première respiration musicale, Chira Remiti, dans un morceau qui s'intitule Saïda. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de progresser. Je laisse le mot. Prononce. Bonjour Saïda, tu peux prononcer.
Oh pauvre, je ne sais pas si je vais faire mieux. Cheikh Ahmiti,
je sais même pas. Merci Sidi.
والصيد العود يا ميان همشي وحدا يا الخيم في الماي وبها احبيبي يا عندي مريرة مش بالواية الحذر حتى الخيم في الماي وبها سيدة بعيدة وفراكتي وشارلي
Vous m'entendez ? Ah, nous venons d'écouter Chera Rimiti avec Saïda, figure majeure de la chanson populaire algérienne. Elle a porté tout au long de sa carrière la voix des femmes du peuple, leur aspiration, leur résistance et leur désir de liberté. Son parcours résonne avec celui de nombreuses femmes issues de l'immigration, qui dans les quartiers populaires ont choisi de s'organiser collectivement pour défendre leurs droits, faire entendre leurs revendications et prendre leur place dans la société. Une manière de rappeler que les combats pour la dignité, l'égalité et la reconnaissance s'expriment aussi à travers la culture, la musique et la transmission des mémoires.
Et merci Saïda. À travers la voix de cette chanteuse, c'est déjà une partie de l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui. Celle de femmes qui ont refusé de rester invisibles et qui ont décidé de devenir actrices de leur propre destin. Pour comprendre la naissance de Sheba, il faut revenir au contexte social et politique des années 1980, une période qui est marquée par l'installation durable des familles immigrées dans les quartiers populaires, par l'émergence de nouvelles revendications citoyennes et par les premières mobilisations collectives de femmes. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre ce qui a rendu nécessaire la création de Sheba, ce qui a fondé son engagement. Nous allons attendre que Zoubida puisse répondre par téléphone, mais en attendant, nous allons demander à nos amis ici présentement de pouvoir se présenter. Nous allons démarrer par Karima. Bonjour Karima.
Bonjour Jean-Marc.
Et tu peux te présenter, nous présenter, même si nous te connaissons maintenant.
Que dire que j'ai fait, je pense, toute ma carrière professionnelle et mon militantisme dans ce quartier qui me tient énormément à cœur, à double titre, puisque mon grand-père a connu le bidonville de Saint-Barthélemy. Puis nous, on est venus s'installer dans les années fin 80 jusqu'aux années 90, donc au bâtiment U10 qui n'existe plus, dans le cadre de la première rénovation urbaine de ce territoire et que j'ai eu la chance de travailler d'abord au comité Maméga sur l'histoire de M. Thir, donc, qui raconte, à travers M. Thir, on raconte l'histoire de ce territoire des années 60 jusqu'à fin des années 90. Et ça, ça a été une expérience extraordinaire puisque c'est un livre collectif qui a été fait avec l'ensemble des acteurs associatifs et des habitants du Grand Saint-Barthélemy. Ma période à Bodiensoul avec Jean-Pierre Higa, évidemment, qui a été extrêmement formateur pour moi, cette période, enfin, formatrice pour moi, cette période-là. Et puis directrice du centre social Agora, la Busserine, de 2003 à 2014. Donc un sacré petit bout de chemin dans cette association. Et depuis, j'ai l'honneur d'être membre du conseil d'administration du comité Maméga et d'être la passeuse de mémoire.
Et la future présidente du comité Maméga.
Nous verrons cela.
Merci Karima. Merci Karima. Mais nous allons poursuivre. Najette, à toi la parole. Bonjour Najette.
Oui, ben bonjour tout le monde. Moi, je suis déjà membre fondateur, il faut le savoir, parce que tu n'as pas dit, mais je répète. En fait, dans les années 82-83, on était un groupe de jeunes filles, 4-5 jeunes filles, à vouloir un peu changer les choses. Et on s'est aperçu, surtout par rapport à la marche pour l'égalité, c'est là où on a commencé justement à se réunir dans les quartiers nord, favoriser du moins. Et c'est de là où est née cette idée de se réunir, en fait, en se regroupant entre jeunes filles du quartier. Et c'est là où on a commencé justement à débattre de toutes ces problématiques, que ce soit le racisme, la précarité, la situation des femmes, les familles monoparentales, toutes les problématiques qui sont jusqu'à aujourd'hui d'actualité d'ailleurs. Et là, donc, on a créé cette association Sheba, qui voulait dire tout simplement, en ce moment-là, c'est belle d'intérieur comme de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé donc à travailler là-dessus. Et c'est créé aux alentours des années 83-84, l'association Sheba.
Merci. Alors, nous avons Zoubida au téléphone. Allô, oui, bonjour Zoubida.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui, parfaitement.
Oui. Ouais,
peux-tu te présenter aux auditeurs, auditrices de Radio Galère?
Alors, moi, je suis Zoubida Megheni, j'ai grandi à la Busserine. Et puis, je fais partie des personnes qui ont poussé à ce que les groupes de femmes s'organisent et se créent une association dans Sheba. Voilà. Donc, je peux remettre dans les années 80, parce que vous avez, je pense, c'était bien, bien synthétisé ce que vous avez dit au niveau de la période 80. C'est quand même, le Grand Saint-Barthélemy était un fief des associations militantes de Marseille. C'est là où on formait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs associatifs. C'était à un moment donné le plus important lieu où il y avait beaucoup d'actions de quartier. Alors, je vais reprendre. Donc, moi, j'étais animatrice à l'époque. On était animateur des quartiers. On avait l'association Assure. Ça mériterait peut-être de faire une émission dessus. Vous avez dit, quand j'avais, elle est pas là, mais elle a été, c'est comme ça qu'on l'a connue aussi, à la Maison des Familles. Donc, il y a eu toute une où ça bouillonnait vraiment. La mise en famille des assos du quartier se sont fait monter. Il y a eu pas mal d'assos qui sont montées. L'association Sûr, qui était la plus jeune association des jeunes des quartiers issus de l'immigration, puisqu'on a juste après mai 81, Mitterrand est élu, où il y a liberté d'expression, liberté d'organisation associative et militante comme les Ravioli. Bon. Puisqu'à partir de là, avant ça, une personne qui était de nationalité étrangère ne pouvait pas présider d'association. Donc, c'est comme ça, et j'en ai beaucoup, beaucoup d'assauts de quartier, de Radio Libre, etc., comme Galère, Gazelle d'abord. Voilà. Et nous, on avait notre association d'animateurs, on encadrait, on a mis en place les animations de quartier pendant les temps cantine, le soir, tout ce qui était soutien scolaire, dans tout le 13-14, même plus loin, on a formé, bon, je me rappelle, j'ai formé beaucoup de directeurs qui sont directeurs aujourd'hui de centres sociaux, ou qui ne sont plus, hein, parce qu'on n'est pas jeunes, aujourd'hui, 40 ans après, tu l'as dit si bien. Donc moi, j'étais animatrice, j'avais une troupe de théâtre, les droits de frisée, je travaillais aussi à la Busserine, j'ai écrit mon poste, j'étais le premier chef de projet qui était à l'Inforest, et j'avais mon temps d'animateur. Donc à l'époque, moi je voyais qu'il y avait beaucoup de différences, j'encadrais beaucoup de temps d'ado, mes premiers 40, parce que 14 temps par semaine pendant les vacances scolaires, donc petites ou grandes. On formait beaucoup d'animateurs, et là, avec la FUR, moi je voyais quand même que quand la maison de quartier organisait des sorties femmes, ils ne voulaient pas prendre les femmes de la busserie, tout ça, d'origine descendant de l'immigration. Il y avait un racine qui commençait à naître, parce qu'en 1986, le Front National commençait à monter. On avait beaucoup de racisme. Et le taux le plus important de au niveau Front National, au niveau des chiffres, c'était quand même Sainte-Marthe. C'était le Sainte-Marthe, les villages, le noyau villageois de Sainte-Marthe et alentour. Donc, moi, je trouve ça injuste, puisque je voyais que on interdisait à mes femmes du quartier de sortir. Donc, c'est à partir de là que j'avais un groupe de jeunes filles, les filles, dont la jette, qui était plus jeune que moi. Un an, deux ans, nous, on encadrait, pour dire, on avait vu. On était jeunes aussi, quoi. D'autres filles du quartier, toute une équipe qui partait avec moi. Donc, ça fait régulièrement avec des jeunes garçons comme Kaditir, tout ça, etc., qui partaient régulièrement avec moi en camp ou en colo. Et on avait essayé de monter une association garçons-filles, mais ça ne marchait pas. Voilà. À l'époque, les garçons fréquentaient les filles d'à côté, les filles fréquentaient les garçons du quartier d'à côté. Parce qu'il y a les frères et sœurs, vous voyez, l'état d'esprit, c'était ma sœur, mon frère. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et donc, on a monté, ensuite, quand j'ai vu qu'en 84, on a monté cette asso mixte. 86, on crée l'association de femmes Sheba, c'est vrai, tous, on avait discuté, voir qu'est-ce qu'on mettrait derrière, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Ça veut dire belle et jeune. Et donc, on a monté cette association. Mais moi, j'étais responsable de l'animation des flamands jusqu'à son vert. Busserine, tout le grand Selba, tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Après, ils ont construit le mail, bon, ça c'est une autre affaire. Mais quand même, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de jeunes, on représentait le quart des jeunes de la ville, et ce racisme anti-maghrébin qui montait. Donc, il est très vieux, ce racisme anti-immigration, anti-maghrébin, puisqu'il Comorais, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait la gestion il y avait un groupe de travail que moi, je suis animatrice là, qui s'occupait aussi du comité de quand il y a des habitants qui arrivaient, donc on faisait tout un travail d'accompagnement, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et il y avait les Comoriens qui commençaient à arriver, et il y avait aussi du racisme anti-Comorien, anti-Noir, donc qui commençait à naître aussi juste après. Donc moi, ce que j'avais dit, on monte cette association que pour les femmes, parce que sinon on va s'en sortir. Les mamans, leurs filles, des conflits de génération, intergénération et interculturel, où les filles partaient. Il y avait la drogue aussi qui montait. À partir de 84-85, on a eu le sida en 86. Donc, il y avait quand même un phénomène des jeunes qui se shootaient à la colle, à la cire. Donc, il y avait quand même beaucoup, par rapport aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de jeunes, filles et garçons. Donc, c'est à partir de là, on dit, on va structurer quelque chose. Les garçons, moi, je les ai suivis autrement. Mais là, les filles, je sais pas. Donc, on a monté ça. Alors, moi, c'est dans les fondateurs, c'était dans le conseil d'administration. Et elle, Najette, avec d'autres, c'était dans le bureau. Et Najette qui présidait, puisque elle, c'était ses copines, leurs copines, elles avaient décidé ça. Moi, je travaillais, je ne voulais pas présider, puisque je travaillais sur le secteur animation jeunesse. C'est moi, avec les collègues, nous avons créé le B7. Aujourd'hui, c'était notre local, mais on l'avait déplacé parce qu'on était ailleurs. Et moi, j'avais décidé de partir, de quitter le quartier. Et j'étais en conflit avec certains, ça c'est une autre histoire, je t'en parle aujourd'hui,
ouais.
Responsables aujourd'hui dans le quartier. Donc même moi-même, j'ai subi ce racisme, cette différence, qu'issue d'immigration, issue du quartier, on était vraiment attachés. Donc à partir de là, moi ce que je peux dire, on a fondé ça, parce qu'elle ne savait pas que c'était des statuts, elle ne savait pas que c'était une association, donc je l'aurais expliqué.
Merci.
Quand on a monté cette association.
Voilà. Merci Zoubida pour cette introduction que tu as faite au niveau de la présentation de la fondation de Sheba. Nous allons poursuivre parce qu'il y a Jean-Pierre comme témoin, donc nous allons lui passer la parole parce que même s'il n'a pas été inscrit réellement dans Sheba, mais il était là, il était présent, donc...
C'était mes copines. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est bien de rappeler que parmi ces filles, il y avait Nadia Dekari. Il y avait Nora, Boudjelal et Awes. Voilà, il y avait quelques... Donc, c'est bien de... Malika Ahmed. C'est bien de donner quelques noms. Bon, moi, je n'ai rien à dire. Je vais vous laisser poursuivre. J'interviendrai peut-être plus tard.
Et oui, nous allons poursuivre avec la plus jeune. Il s'agit de Nina. C'est elle qui incarne la continuité de Sheba. Alors, bonjour Nina. Peux-tu te présenter et voir un peu quelle est ta fonction au sein de Sheba?
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ben, moi, je m'occupe de l'association Sheba depuis, on va dire, 4 ans en tant que coordinatrice et médiatrice de l'association Sheba. Ben, Sheba fait partie de ma vie depuis plus de 40 ans. J'y ai grandi, j'ai appris des valeurs de solidarité, de partage. C'était quoi l'émancipation de la femme? Bon, j'ai grandi, vous avez vu, dans cette famille où c'était important d'aider les femmes et les gens du quartier. Donc, depuis toutes ces années, on accompagne les femmes... et les familles vers l'autonomie à travers des cours de français, de confiance en soi, d'insertion, de tout ce qui est démarche accès aux droits. Et voilà. Et aujourd'hui, j'essaye de faire perdurer cette belle aventure qui est Sheba, difficilement, très très difficilement, et essayer de transmettre cet esprit, on va dire, d'entraide et qui m'anime qui me fait tenir le coup. Et voilà, en gros.
Merci, merci Nina. Donc, j'ai vu que Karima a pris pas mal de notes. Tu voulais rebondir par rapport aux propos et par la fondation de Sheba aussi, rajouter certains éléments pour essayer d'expliciter quel était le contexte des années 80, non seulement contexte social, mais aussi politique de l'époque.
Oui, tout à fait. Donc, au lendemain de 81, donc... au niveau national, il y a un événement majeur qui se passe, c'est quand même l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc avec l'élection de François Mitterrand. Est-ce que ce monsieur peut aller là-bas? De François Mitterrand, et une des premières mesures qu'il va prendre, et pas des moindres, c'est qu'il va modifier la loi de 1901, donc qui régit le secteur associatif, en l'ouvrant aux populations étrangères. Et ça, c'est une vraie bouffée d'air, notamment dans les quartiers populaires où se concentrent un certain nombre de populations issues de l'immigration postcoloniale qui vont investir cet espace public, politique, pour effectivement, à tous les niveaux, de la culture jusqu'aux associations de femmes, radio évidemment, et aussi c'est l'époque des radios libres, etc. Et donc il y a vraiment un souffle extraordinaire qui se passe à ce moment-là, et dans lequel vont s'engouffrer toute une génération issue des quartiers populaires, issue de l'immigration postcoloniale. Et Sheba s'inscrit dans cette histoire-là, et c'est extrêmement intéressant. Et Zoubida le disait dans son introduction, mais aussi Najet, une des cofondatrices de l'association, c'est qu'il y a aussi un autre élément, un marqueur plus triste, c'est l'assassinat de Lawari Ben Mohamed, donc au mois d'octobre 1980, ici à la Busserine, un jeune des Flamands, âgé de 17 ans, par un policier tristement connu, voilà, le policier Taïfer. Et ça, c'est un marqueur vraiment de l'histoire de ce territoire qui va non seulement mobiliser les gens, mais dans un engagement total pour la justice et contre le racisme. Ce crime policier, ce crime raciste policier, est en écho à d'autres crimes racistes dans toute l'Hexagone en France, notamment dans les quartiers populaires des banlieues de France, et notamment les Minguettes, etc., qu'on connaît à la suite des révoltes. Ils vont s'organiser avec une marche qu'on appelle, en tout cas, que les marcheurs et les marcheuses, eux, parce qu'elles étaient aussi dans cette histoire-là, la marche pour l'égalité et contre le racisme, que malheureusement les pouvoirs publics et les médias et les politiques de l'époque vont détourner en appelant la marche des beurs. Alors que ce slogan, comme je le dis toujours, est éminemment politique. Il pose la question de l'égalité entre les travailleurs français et les travailleurs immigrés, et pose la question de la lutte contre le racisme, contre les crimes policiers et contre les crimes racistes. Donc Sheba s'inscrit dans cette histoire-là. Et peut-être, bon, on va trop tôt, mais je pense que tout à l'heure, en conclusion, il faudra quand même qu'on parle aujourd'hui de la situation de Sheba. En aparté, avant la réunion, donc avant l'émission, Nina nous a alerté sur cette situation, et moi je trouve que c'est important de donner un peu de temps à cette
concernant
actualité.
Concernant l'égalité des droits, c'était aussi pour les papiers, concernant les papiers avec des promesses qui avaient été faites à l'époque.
Tout à fait. Donc quand Mitterrand reçoit les marcheurs, en tout cas une délégation, une des revendications va donc être accordée par le président Mitterrand, et pas n'importe laquelle, c'était une carte de séjour de 10 ans, renouvelable. Parce qu'à l'époque, les travailleurs immigrés étrangers étaient soumis bon vouloir des agents des préfectures. C'était 3 ans, voire 5 ans. Donc une instabilité psychologique pour les travailleurs, sachant pas s'ils allaient rester ou pas. Et donc ça, la deuxième revendication, juste, qui n'a jamais été accordée, et qui, avec toujours des promesses, notamment du Parti Socialiste, mais qui n'a jamais été actée politiquement, c'est le droit de vote des parents au niveau des élections locales.
Locales, tout voilà. À fait, oui. Il y a Jean-Pierre qui souhaiterait intervenir.
Alors, c'est vrai, plus sérieusement, c'est vrai que je me sens un peu en famille, donc du coup, je blague facilement. Mais Sieba est une association qui, très vite, était professionnelle. Quoi. Il y avait quand même... Zoubida avait fait une formation, et c'est vrai qu'elle nous accompagnait, même au niveau des statuts de l'association Boudensoul, le journal officiel. Il y avait très vite un professionnalisme. Il y a eu plusieurs strates de Sieba, donc toute la longue période avec Fatima Oudkadour, qui n'était pas moindre, donc une période où Sieba a été innovante sur plusieurs domaines, puisque les parents relais sont un petit peu l'héritage de Sieba. C'est Sieba qui a inventé ce concept, ce relais entre les familles et les écoles. Il y a eu aussi la période, donc longue période avec Fatima. Il y avait donc Karima Benhammer, qui était donc comptable. Sieba était l'association essentielle du 14e arrondissement. Le comité Mamega a sa place, Boudensoul a eu sa place, mais au niveau de l'importance, de l'impact sur le quartier, sur la population, toutes ces mamans, toutes ces grands-mères qui se retrouvaient à Sieba, toutes ces jeunes filles, toutes ces sorties, toute cette mobilité à l'extérieur, eh ben on le doit à Sieba. Sieba est une association sans qui le quartier ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était l'association la plus importante du 14e arrondissement. Je pense qu'il faut, ça ne coûte rien de le rappeler. Et le quartier sans Sieba, progressivement, malheureusement, depuis des années, Karima a amorcé le sujet, des associations aussi importantes telles que Boudensoul, qui a aussi eu un impact sur la population du quartier, Sieba connaît maintenant un petit peu cette descente aux enfers et qui n'est pas normale. Voilà.
Je mettrai un petit bémol à ce que tu dis. Il faut savoir que la professionnalisation aussi, c'est une demande institutionnelle. Donc il me semble aussi qu'il y a eu un autre effet, qui est de dire, nous voulons qu'il y ait des professionnels, mais avec de moins en moins de bénévoles, malheureusement, ça a eu cet impact-là, la professionnalisation. Ceci étant, je vais laisser la parole à Guy.
Donc, les associations de femmes existaient-elles déjà avant les années 80 dans les quartiers populaires ?
Au niveau du Grand Saint-Barthélemy, on n'a pas connaissance d'une association de femmes avant la création de Sieba. Mais c'est ce dit, on n'a pas connaissance.
Il me semble qu'il y en avait une à la maison de quartier. Mais c'était une association de femmes pour les personnes âgées, je crois.
Non, c'était une association de locataires. À l'époque, il y avait M. Lippi, il y avait M. Pioche, mais il s'occupait des personnes âgées, des seniors. Mais l'association...
Alors, c'était pas vraiment femme, il y avait beaucoup de femmes.
C'est Sieba, l'association qui a la première association du quartier avec un impact aussi important, c'est Sieba.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Enfin, comment les femmes du territoire ont-elles participé aux grandes mobilisations de l'époque, notamment à la marche pour l'égalité contre le racisme de 1983 ? Peut-on parler d'un contexte politique plus favorable à l'engagement des citoyens après l'élection de Mitterrand ?
Évidemment, on l'a dit, c'est qu'effectivement...
Mais comment le mouvement a-t-il pris corps des... Moi, je peux intervenir parce qu'à l'époque...
Tu connais cette période.
Oui, parce qu'à l'époque, j'étais aussi fondateur avec les camarades de Saïd Bouknouche, Pierre Lézot, etc., de Radio Gazelle de l'époque. Dans le cadre d'un projet d'interculturalité, nous étions un bon nombre et nous avons énormément participé à cette marche pour l'égalité. Nous avons organisé avec d'autres la montée à Paris en quart. Nous avons pris les messages lorsque nous étions à Radio Gazelle pour organiser cette montée. Nous avons reçu le prêtre de l'Orme, de Lyon, etc., ainsi que les différents marcheurs à Gazelle à l'époque. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous est inconnu, ce qui nous fait penser que c'était effectivement un fort moment aussi dans les quartiers, puisque la marche a eu l'occasion de sortir de la Cayolle, mais de passer dans le quartier du Grand Saint-Barthélemy aussi pour aller jusqu'au Flamand. D'ailleurs, c'est l'année dernière qu'il y a eu... C'est l'année dernière qu'il y a eu aussi, comment dirais-je, la plaque, hein, bon, la démarche qui a été faite, puis après avec toutes les polémiques en lien, bon, peu importe, mais c'était réellement symbolique pour les marcheurs et les descendants de cette histoire, symboliquement par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'assassinat de la Rory Ben Mohamed. Voilà.
Zoubida Meghini souhaiterait intervenir brièvement.
Ok, alors Zoubida, à toi la parole. Elle a coupé pour le moment. Donc, je vous propose de faire une pause musicale. Nous allons
écouter... Après la pause musicale, nous reprendrons avec Zoubida Meghini.
Camélia Jordana, alors.
Ah, oui.
Pas mes yeux, pas mes mots, à la force de mes os, j'ai gardé ma place malgré tout, j'ai pris ta roue, chanté le drapeau, comme c'est pas cadeau, je parle mais t'entends plus quand je te cause of the way I talk true, with all that I've been through, c'est pas de ma faute si toi t'es rongé par la haine, gonflé de dilemmes, t'en viendras à bout, tu sais que bientôt tu sautes pas comme si t'étais. It's the first time we all seen us girls gain farhan fi galbi da'in. Please believe me, baby habibi. Ce monde invisible, viens suis-moi. Avance pour m'ouvrir, te sais-moi. Je te le dis sans faille, moi je te dirai bye. C'est que ma peau bad n'goulak. T'inquiète quoi qu'il, elle a quoi t'as, mais si mouchkil, smali ani, n'adore mec, ça y est, c'est fini de faire le mec. All these girls, you know, all these girls, it's the first time we all seen us pearls gay in farhan, fi galbi da'i.
Nous venons d'écouter Camélia Jordana avec Que ma peau, une chanson qui fait écho à sa manière au combat mené depuis plusieurs décennies par les femmes de nos quartiers. Des combats pour l'égalité, contre les discriminations, pour la reconnaissance et pour le droit de prendre pleinement part à la vie sociale, citoyenne et politique. Car derrière les transformations de nos quartiers populaires, il y a souvent des femmes qui ont créé du lien, porté des revendications, accompagné des familles et ouvert des espaces de parole. Là, où il n'en existait pas encore.
Merci, mais là nous allons avoir Zoubida au téléphone qui voulait intervenir par rapport au sujet précédent. Zoubida, coucou.
Es-tu oui, là coucou. Voilà. Moi je connais, oui, juste pour dire, je connaissais bien la réalité de la Busserine et tout ce qui était social, associatif. Il n'y avait pas d'association de femmes. Pour penser que nous on a monté, on a dit on va faire de la formation, alphabétisation, pour que les femmes puissent connaître le monde européen puisque c'était quand même très fermé. les assistantes sociales, tout ce que vous voulez, frères sociaux, venaient que pour nous presser le citron et avait rien vraiment de concret. Donc nous, quand on a monté cette association, il n'y avait pas d'association de femmes proprement dite, il n'y en avait pas du tout, et surtout issue de l'immigration. En fait, même la formation, il n'y avait pas l'idée, nous avons l'idée de faire la formation quatre femmes, puisqu'il ne faut pas oublier aussi la question religieuse musulmane, les pères ne voulaient pas envoyer leurs femmes mélangées avec les hommes, donc on a inventé ce concept de femmes, formation entre femmes, et les seules formations d'alphabétisation, vous savez que c'est les employeurs qui mettaient ça en place, il y avait le Greta, mais le Greta, c'était mixte, donc ça empêchait toute une partie de la population féminine, issue de l'immigration particulièrement musulmane, d'aller se former. Donc nous, on a mis ça en place, l'idée de proximité, l'idée de femmes entre elles, et ça a très, très bien marché. Donc, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a des tonnes, mais il faut savoir aussi que chez BAC, quand on a essayé de demander des subventions, pour, à leurs yeux, on n'était pas crédible. Donc, moi, j'ai fait intervenir le Fonds d'Action Sociale, il y avait la CRIPI, Jean-Marc, si tu connais bien, carrément aussi. Donc, on a fait, sur la formation, on nous donnait 3 miettes, on nous donnait rien du tout. Et je suis allée voir, bien sûr, le Parti politique. Il faut savoir qu'en cas, pour reprendre la marge de l'égalité qui est donnée avant, en effet, beaucoup de gens comme moi, qui étaient dans la marche, qui étaient partie prenante, acteur réel de la mise en place de cette marche, c'est pas simplement avoir marché, c'est la mise en place, tous les comités locaux d'organisation. Moi, j'étais sur le Grand Saint-Barthélemy. Et ce qui est fait qu'ils sont passés à la Busserine, c'est moi la référence, ils sont passés par Picon, on a les photos, Busserine, j'ai encore les photos, et on est monté au Flamand, ensuite on était à la Bassin, je me souviens. Mais avant ça, il y avait cet état d'esprit, tous les copains l'ont dit. On a été demandé par les partis politiques, même à la SUR à l'époque, qui est née en 82, qui est présidentielle à l'époque. Mais nous, on refusait, on a dit, on n'y croit pas aux partis politiques parce qu'on sait que c'était des machines infernales de pouvoir vertical. Et nous, on voulait exister en tant que tête. Ce qui explique que dans toute la France, beaucoup d'associations de quartiers sont nées. C'est pas qu'à Marseille. Mais les femmes, très peu. Pour reconnaître, sont femmes très peu. C'est personne n'y arrivait parce que le public femme est un public très difficile. On a réussi. Moi, parce qu'un an et demi après, j'ai pris la présidence, que bon, ben, l'équipe de jeunes filles, tout, elle était prise sur leur formation, elles étaient toutes jeunes quand même. Donc, elles étaient prises par rapport à la nombrée, leur histoire de retrouver un vrai boulot. Et donc, moi, j'ai pris la présidence à partir de là, qu'on a organisé les choses, j'ai contacté les centres de locataires, de tout ça. Mais c'est vrai, comme dit Jean-Pierre aussi, on avait une formation et un savoir-faire, connaissance locale des institutions. Parce que sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, c'est à partir de là que je sais pas comment ça monter. Et un fonds d'action sociale. Et on est allé voir Catherine aussi. Et là, carrément, en 94, c'est quand même bien 10 ans après, on lance l'alphabétisation. Parce que pendant des années, elle n'avait pas de subvention. Et première subvention, c'est en 88. Les contrats aidés et tout, c'est après 88. Donc, on a galéré pendant des années. Les locaux associatifs, pour avoir ce local, le petit local qui n'était pas si grand que ça, c'était juste un petit local de gardien, on l'avait récupéré, mais c'est parce que moi et d'autres collègues, on siégeait dans c'était un comité qui accordait les locaux associés dans le quartier. Voilà, donc grâce à mon intervention et le collègue qui joue aussi, parce qu'on avait l'animation globale de la jeunesse sur le quartier. Et ça, c'est nous aussi, c'est moi aussi, j'étais quand même celle qui a lancé ce passerelle et compagnie, c'est quand même partie de moi, et de mon collègue qui est parti aussi, qui n'était pas de la Busserine. Cette idée de s'occuper des jeunes, de s'occuper des femmes, c'est vraiment une vision globale. Voilà, donc il reste des choses aujourd'hui, tant mieux, mais voilà, donc ce que je voulais reprendre sur les années 83 et la création de Cheba, ça ne s'est pas fait si simplement que ça, on a galéré pendant des années. Et les subventions, on ne les accordait pas, c'était les gros, les grands qui récupéraient tout. Et il y a quand même 7 francs des familles. Il y a eu la prière, des licenciements, ben, beaucoup de personnes du quartier habitaient là-bas. Et après, il y a eu le RMI qui est né, qui est arrivé. Dans le Secours Populaire, par exemple, on l'a monté, je crois, en 86. Donc ça aussi, je suis allée les chercher. Il n'y avait pas dans les quartiers. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de partout. Et par-dessus le marteau, voilà, le Secours Populaire de Marseille refuse que j'ai pas continué. C'est une action forte, je ne sais pas, pour nos dirigeants, il n'y avait pas de subvention, oui, etc. Voilà. Donc c'est un contexte très économique qui est était très importante sur le quartier. Et puis on a refusé, pour reprendre, beaucoup de jeunes, ici, migrants comme moi, qui étaient militants dans les quartiers, un peu leader, je dirais leadership, ben, on a refusé d'aller en politique. Bon, après, je suis allée plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ben, mais c'est pas même politique qui fait tout, malgré tout. Et beaucoup ont refusé. Et on s'est tous investis dans nos assos. Si je prends l'association de Yazid Karfi, qui aujourd'hui a fait tout ce qui est prévention de nuit, etc., avec son bus qu'il a inventé ce concept-là, on était quand même, et on est resté en réseau quand même quelques-uns en porte d'un.
Et oui, Zoubida, merci, mais j'aimerais bien que l'on puisse rentrer aussi dans des questions un peu plus centrées, dans le sens. Quel rôle ont joué les femmes dans les transformations sociales du Grand Saint-Barthélemy, par exemple, d'autre part, ce que je voudrais savoir, quelles étaient les principales préoccupations aussi des habitants que vous avez pu observer et faire remonter, parce que c'est sur cela que Sheba a été créé. Alors, ces habitantes, qu'est-ce qu'elles exprimaient aussi comme besoin, hein, parce que vous avez pu entendre aussi quelles étaient la demande et comment. Donc, voilà. Donc, c'est toutes ces questions pour nous permettre de mieux appréhender un peu quelles étaient aussi tout ce contexte et les demandes de ces femmes des quartiers qui a amené toute cette évolution aussi.
Je peux juste répondre rapidement. Ce qui se passe, c'est que les Européens ont quitté petit à petit. Nous, on avait beaucoup de voisins qui s'appelaient Dupont, Bernard et compagnie. Il y avait des Italiens. Ils sont tous partis pour l'accession à la propriété. On peut le voir dans les données. Je sais qu'il y a des recherches. Là-dessus, moi, j'avais trouvé. Je travaillais avec des chercheurs avec qui on avait trouvé. Ils sont partis. Ils sont restés, les populations, ici, l'immigration. Alors, soit les faire au chômage, soit... Et ils sont restés que... Donc, il fallait faire quelque chose. Les mamans, elles avaient vieilli. Elles sont arrivées à l'âge de 20 ans. Elles avaient vieilli. Il n'y avait pas d'argent. Soit le père en arrêt maladie. En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que... je m'écarte. Ce que je peux dire, c'est que dans ce contexte-là, cette population était oubliée. Voilà. Et il y avait du racisme, je disais, qui montait. Les jeunes, il y avait la délinquance qui est arrivée. Les vols de voitures, toute cette période-là, le meurtre du petit de la Warren 81, tout ça, c'est une période, c'est tout un contexte. Arrivé en 83 à la marche, ensuite des créations d'associations dans toute la France, mais de femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes, pour moi, c'est le vecteur important d'une famille. C'est elles qui gèrent pour manger à la fin du mois. Qui a la gestion familiale, qui a les enfants tous les jours, qui doit lever le père qui va travailler. Eh ben, la mère, c'est elle qui va s'occuper de ça, qui va s'occuper de ses enfants. Toute cette conscience-là, pour nous, la mère joue un rôle important, mais il fallait aussi la former, il fallait aussi lui apprendre plein de choses. Il y a des femmes qui étaient là, arrivées à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui avaient 35, 40, 50 ans, qui n'étaient jamais allées à Notre-Dame de la Garde, qui n'étaient jamais allées à Frioul, qui ne sortaient pas. Donc, il fallait qu'on lutte contre ça pour leur dire, voilà, il faut apprendre jusqu'à ce que vos enfants sortent. Il faut que vous connaissiez le monde de la société française, connaître que votre gamin, il faut qu'il aille, s'il doit pointer au chômage, s'il doit aller chercher du boulot. Tout ce travail d'intégration, entre parenthèses, de connaissance de la société. Et pour nous, la mère, c'était sa vérité, c'était elle qui souffrait le plus. Vous comprenez pas aussi pourquoi ces filles épousaient des Européens, pourquoi il fallait faire un travail sur ce côté aussi intergénérationnel. Si la fille fumait sa cigarette en cachette de la mère, même le garçon à l'époque, c'était un manque de respect. Donc toutes ces choses-là, et puis la drogue, je le redis encore, qui a fait un massacre dans le quartier, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts d'overdose. Donc il fallait aussi faire un travail de prévention. Alors moi, le mot prévention, c'est très important pour moi. Parce que c'est comme ça qu'on peut éviter des problèmes ou que des problèmes s'aggravent. Donc il y avait tout ce travail à faire. Et voilà, c'est pour ça que Sheba a vu sa nécessité, sa place, et la formation, et les sorties, etc. Auto-organisation aussi. La notion d'auto-organisation, de donner une enveloppe, ça n'existait pas. Il fallait dire, c'est une sortie à 3 euros que multiplie 15 personnes, etc. Ah ben non, j'ai dit non, vous nous donnez une enveloppe qui correspond à temps, et nous on verra avec elle.
Je souhaiterais poser une question, parce qu'à un moment donné, Sheba a été taxé de communautarisme. Or, moi, c'est à travers l'histoire, et j'aimerais bien entendre Karima, qu'elle puisse expliquer l'histoire du Grand Saint-Barthélemy au niveau du changement. Dans les années, quel a été le peuplement aussi de la Bisserine à l'origine de sa création
et comment avant de tout finir, Karima a contribué aussi à monter avec moi toute la formation des parents relais et l'alphabétisation. On était trois, je crois que les Najet, elle et moi, on était trois. Donc, pas ma sœur Najet, mais une autre. Mais qu'on a monté ce centre de formation. Et c'était innovant dans tout Marseille. Il n'existait pas cette forme de formation. Voilà.
Alors, Karima, oui, d'abord, pour expliquer un peu, parce qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu la création de Sheba, on disait que c'était une association communautaire. Donc cela peut s'expliquer hein, à travers l'histoire de Grand Saint-Barthélemy, quelle était la composition au départ sociale, puis après une mixité ethnique. Ce n'était pas la volonté de toutes les populations dites immigrées de venir s'installer dans le même coin, dans le même secteur. Tu peux en parler un peu plus ?
Oui. Donc, avant la construction de ces bars et ces tours que nous connaissons tous, il faut quand même parler du plus grand bidonville de Marseille, qui est le bidonville de Saint-Barthélemy, et qu'a cohabité à côté du bidonville des campagnes où après, dans les années début des années 60, l'État et les pouvoirs publics vont préempter ces territoires pour construire du logement en masse, du logement social, mais qui était destiné en premier lieu aux rapatriés d'Afrique du Nord et aux Marseillais, qui, dans leur majorité, étaient mal logés. Donc, c'est à ces populations qu'on a permis d'accéder à ces logements sociaux, qu'il faut rappeler qu'à l'époque, c'était vraiment un logement de grande qualité et que les Marseillais n'avaient pas. Ça, c'est la première chose. Donc, qui on retrouve dans ces grands ensembles ? Ce sont essentiellement des familles ouvrières et européennes. Au milieu des années 70, par exemple, plus de 75% de la population ou des ménages du Grand Saint-Barthélemy sont des familles ouvrières. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'entre les années 60 jusqu'au milieu des années 70, où à la fois on construit ce Grand Saint-Barthélemy et ces populations européennes et pieds noirs s'installent, elles ont aussi comme projet, et ce qui est tout à fait légitime, Zoubida l'a dit, de partir pour accéder à la propriété ou à la copropriété. Et là, le parc locatif HLM s'ouvre enfin aux populations qu'on dit aujourd'hui les populations racisées ou les populations issues d'immigration postcoloniale. Postcoloniale. Et c'est aussi donc cette période des années 60 jusqu'à la fin des années 70, ce qu'on appelle le plein emploi. Et le chômage commence à poindre son bout du nez. Et les années 80, on a un changement à la fois de population, qui va s'affirmer dans les années 80 jusqu'aux années 90, remplacée par des populations issues d'immigration postcoloniale et en même temps un chômage compensé conjoncturel qui s'installe, on le verra, définitivement. Ça, c'est la deuxième période du Grand Saint-Barthélemy. La troisième, c'est celle que nous connaissons depuis les années 2000. C'est à la fois ce qu'un sociologue appelle « nous sommes les héritiers des quartiers populaires ». C'est deux à trois générations qui s'installent et s'enracinent définitivement dans ce territoire. Et on peut prendre des exemples ici de familles où on a les grands-parents, les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants qui habitent ces grands ensembles. C'est pas par choix. Marseille est une ville pauvre, est une ville populaire. Et pour passer d'un logement à un autre, c'est extrêmement compliqué. Plus si on doit ajouter comme élément la question des discriminations liées à l'origine. Ça, c'est un élément important qu'il faut souligner. Voilà, les réalités, pour aller vite, hein, première période, travail et population européenne. Deuxième période, population nouvellement arrivée issue d'immigration postcoloniale, le chômage qui touche la classe ouvrière et donc c'est les enfants issus de travailleurs immigrés particulièrement. Et la troisième période où aujourd'hui on sait que des gens ne pourront pas quitter ces grands ensembles. Ils resteront et on peut le vérifier à partir de plusieurs familles où trois générations vivent dans ces quartiers. Donc on a vraiment une... Et moi, je le dis souvent aux bailleurs sociaux, ce dont on ne rend pas compte, c'est que le logement social, sa fonction, au départ, c'était un parcours, une étape dans le parcours résidentiel des ménages. Aujourd'hui, c'est devenu des villages urbains où des familles restent ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, oui. Parce que c'est un peu rapide, parce qu'il faudrait plus de temps pour raconter cette histoire dans le détail. Mais c'est vraiment marquant ces trois époques. Et les grands ensembles aujourd'hui, de toute façon, Marseille est une ville populaire. Certains territoires sont des territoires qui se sont paupérisés et qui... Je ne vois pas là, dans l'immédiat, une inversion. Et donc, les gens resteront et, dans ces territoires.
Et oui, pendant longtemps, les femmes de nos quartiers ont été invisibilisées, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, cela a tendance énormément à changer. Il y a eu la vague de Zoubida, de toutes ces militantes de l'époque qui ont, comment dirais-je, oui, laisse-moi tranquille, et de quoi je me mêle ? Bon, excusez-moi, c'est un règlement de compte en famille. Bon, quoi qu'il en soit, bon, donc je vais continuer, mais excusez-nous de cet aparté, mais c'est du direct, qu'est-ce que vous voulez. Donc, ce qui me semble être important, c'est de pouvoir rappeler qu'aujourd'hui, suite à ce que tu peux dire, effectivement, c'est 3 ou 4 générations, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a des contrôles de police, tous ces enfants qui sont nés dans les quartiers sont de nationalité française. Au-delà des difficultés qu'aujourd'hui que l'on constate pour la régularisation des papiers à cause de la dématérialisation, à l'époque, moi je me souviens, en ayant travaillé, on accompagnait des familles à la préfecture, il y avait des queues qui étaient inimaginables, mais au moins il y avait une relation humaine qui était établie et que les gens de nos quartiers populaires pouvaient savoir où en était un peu leur situation administrative. Là, ce n'est plus le cas et on se retrouve dans un cas de figure qui est de plus en plus de personnes, d'habitants qui se retrouvent en difficulté tant au niveau de leurs papiers, que ce soit pour le chômage, pour la CAF, etc., du fait de cette problématique de dématérialisation. Donc, peut-être que c'est bien de passer à Nina, peut-être que, pour nous parler un peu de la suite, comment as-tu pris et quelles sont les valeurs qui ont été véhiculées que tu as, de ton histoire avec Sheba. Ouais.
Alors, voilà, je voulais revenir sur 2 choses, sur les précédents sujets. C'était les femmes inspirantes dans le quartier. Et pour moi, à part, bon, c'est vrai qu'il y avait la Sema Boudjensoul, avec qui on a découvert l'art-thérapie, tous ces trucs-là, où j'étais toute jeune. Mais pour moi, je voyais toutes les responsables associatives qui étaient des femmes. Déjà, toute petite, on entendait parler de Madame Ega, même si je ne l'ai pas connue. Après, il y avait l'association de locataires qui était tenue par Madame Odette Tarragonet. Il y avait Sheba, avec, que ce soit ma tante Zoubida ou ma mère, ou Najette, ou plein de femmes dans Sheba, que ce soit Siba ou Najette. Il y avait tellement de femmes qui ont participé à l'émancipation. Il y avait Karima Berich aussi, que je voyais tout le temps marcher dans le quartier, en train de parler aux jeunes et de travailler aussi. Il y avait l'éducatrice de la DAP, Geneviève, Marie Geneviève. Il y avait Anne-Marie Tagawa. C'est que j'ai vu vraiment que des femmes, en fin de compte, travailler pour le quartier, que ce soit les associations de parents d'élèves, c'était que des mamans qui les tenaient. Dès qu'il y avait une manifestation ou un événement, il y avait que des mamans dans le quartier. Il y avait très peu de papas, très peu d'hommes investis. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de mettre ces femmes à l'honneur et se dire que quand même, je pense que le changement, c'est un peu grâce à elles. Et aussi, la deuxième chose, c'est que Zoubida a alors parlé des problématiques qui étaient en 1986, que les femmes étaient dans le quartier et qu'elles ne sortaient pas. Ben, on a fait un état des lieux au sein du quartier. Ben, il y a souvent des nouvelles arrivantes ou des femmes qui sont là depuis plusieurs années. Et on a toujours les mêmes problématiques. Et c'est encore pire maintenant parce que tout est cloisonné. Ça fait qu'on a le carrefour à côté, on a le médecin, le pharmacien. On n'a pas besoin de sortir hors du quartier. Et nous, il y avait des femmes qui sont là depuis 4-5 ans. Et Nadia, qui fait les cours de FLE et la découverte du patrimoine marseillais, a fait prendre le métro pour la première fois à des femmes. Elles ne savaient même pas prendre un escalator. Et tellement, elle les a filmées parce qu'elles n'arrivaient pas à se tenir d'un escalator pour monter. Donc, on est quand même en 2026, donc 40 ans plus tard. Et on rencontre toujours la même problématique, et voire peut-être encore plus, parce que ben, avant, peut-être, si elles avaient besoin d'aller chez le médecin ou faire des courses, elles allaient au centre-ville. Ben, aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de se déplacer. Elles ne restent que dans le quartier. Et cette problématique est vraiment importante. On travaille dessus quotidiennement à l'association. Mais bon, vous avez compris qu'avec les baisses de financement, on ne peut pas payer les sorties toutes les 5 minutes à toutes les femmes qui viennent d'arriver. Voilà, je voulais revenir là-dessus.
Et... Oui, Jean-Pierre, vous voulez intervenir, mais Karima d'abord.
Oui, oui, non, mais je mange ce très court. C'est vrai qu'il ne faudrait pas passer l'émission sans s'attarder sur la situation actuelle de Sheba. L'avant et l'après, quoi. les financements qu'il y avait chez BAS, je ne pourrais pas je ne saurais pas dire, mais c'était quand même important, et voir les baisses drastiques. Donc il faut, moi je pense qu'il faudrait consacrer la dernière partie de l'émission sur cette situation-là.
Merci Jean-Pierre, c'est ce que nous avons programmé. Tu es là et bon, bref. Et donc tu l'as fait, mais je n'avais pas terminé.
Pour revenir sur tout ce qui est titre de séjour, il faut savoir qu'actuellement, avec les 1 an de retard de la préfecture, là jusqu'à ce matin, une dame hier n'a pas pu aller travailler parce qu'elle n'a pas son titre de séjour ni d'attestation de prolongation. Et donc, ça fait que beaucoup de mamans perdent leur travail. Moi, je parle des mamans parce qu'on sait que tout passe par la maman dans le foyer. Donc, dès qu'on aide une maman, on aide une famille. Ben là, c'est des mamans seules qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent au domicile. Donc, c'est une grosse problématique, cette histoire.
J'ose imaginer la situation des salariés de chez BAS.
Ne sont pas payés. Jean-Pierre, tu insistes et tu persistes. Bon, nous allons en parler tout à l'heure. Donc, il y a une chanson qui était « Où sont les femmes ?» Peut-être qu'aujourd'hui, la chanson devrait être « Où sont les hommes ?»
Oui.
Dans le Grand Saint-Barthélemy, n'est-ce pas? Alors, une pause, motiver Zebda pour écouter au niveau, par rapport à la mobilisation, surtout des femmes de nos quartiers. Le morceau. Allez, merci.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays? Enchaîne. Oh, ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé,
il faut rester motivé.
Motivé, motivé,
il faut se motiver.
Motivé, motivé. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé,
il faut rester motivé.
Motivé, motivé.
Motivé,
motivé, motivé.
Soyons motivés.
Motivé, motivé.
Motivé, motivé.
Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Motivé,
il faut se motiver.
Motivé, motivé,
motivé,
motivé,
pour le faire sans faire.
Oui, alors donc voilà, on reprend le sujet. Comment l'association a-t-elle su s'adapter à ces évolutions ?
Aux évolutions de façon générale.
Ou aux évolutions
de la population qui a évolué. Et bon, cela te concerne puisque ça a changé les problématiques.
On évolue, surtout on s'adapte aux problématiques qu'on rencontre, je pense. On n'évolue pas, moi je pense qu'on s'adapte. Chaque fois qu'il y a une nouvelle problématique, eh ben, on essaie de travailler dessus et de trouver une solution. À chaque... Ça peut être tellement différent. On peut aider une femme veuve à se reconstruire. On peut accompagner une femme qui se fait frapper par son mari à partir du quartier, à refaire sa vie. On peut aider une femme à trouver du travail, une femme à parler le français, à juste déclencher un droit RSA ou n'importe quelle démarche. Et chaque... une personne âgée qui vit seule et qui est malade et qui n'a aucune visite ou... On va se déplacer au domicile, faire des démarches. Après, oui, sans compter les groupes de parole, des ateliers santé. Mais en général, je ne pense pas que c'est évoluer. C'est plus s'adapter à chaque problématique qu'on rencontre. On est en pied d'immeuble, donc la moindre problématique, eh ben, on se retrouve face à...
Ce qu'il faut savoir, moi, je tiens quand même à souligner ça, ce qui, enfin, je sais pas, je pense que c'est très logique. C'est que dans une famille, la mère, c'est le pilier. La mère, c'est le pilier. Donc, quand les employés de Sheba, enfin, ou du moins les bénévoles, interviennent au travers d'actions ou d'informations auprès des mères, eh ben, par exemple, pour la drogue, tout ce qui se passe, la mère, on va lui expliquer qu'il va falloir qu'elle surveille tout simplement son enfant, voilà, que s'il y a des accompagnements scolaires, parce que c'est ce qu'on fait aussi, il y a beaucoup d'actions, les cours de FLE. Il faut savoir aussi que... Voilà, quand un enfant, eh ben, moi je sais que ici la médiatrice, elle est intervenue auprès de certaines jeunes gens et jeunes filles qui décrochaient, qui faisaient des décrochages scolaires au travers ben, des emplois contrat aidés, tout ça, enfin pas contrat aidés, les adultes relais qu'on n'a pratiquement plus. Donc c'est vrai que toutes ces actions, ben, c'est primordial et c'est au travers de la mère que justement on arrive à avoir et à essayer de réparer toutes ces problématiques qu'il y a donc dans les foyers. Des quartiers, du moins d'ici, Saint-Barthélemy. Après, nous, par exemple, moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est que c'est vrai, les problématiques, peut-être, elles divergent un peu, elles évoluent. Et nous, on fait beaucoup, il y a beaucoup de groupes de parole, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui se font aussi dans ce sens-là, au travers des cours de FLE, comme elle disait avec Nadia, donc le professeur. Après, il y a des cours aussi de sensibilisation par rapport à. À la santé, il y a des fois tout simplement des actions même ludiques qui font qu'à travers ces actions et ces regroupements de femmes, ben, des messages passent, des actions se font. Là, je sais que maintenant, il y a aussi de nouvelles actions qui ont été ouvertes comme pour le bien-être et notamment ben, la coiffure, tout ce qui est esthétique. Il y a plein de choses qui font que la femme peut mieux se sentir. Je sais qu'elles font des relookings. S'il y a des on a eu des cas de femmes... qui étaient ben, très mal dans leur peau, qui partaient carrément dans une situation très difficile avec des enfants, souvent monoparentales. Et Nina ici, je sais qu'elle a fait faire un relooking à une dame qui l'a fait tout simplement revivre par, en récupérant les vêtements que les gens nous donnent et puis en les remettant à neuf. Et la personne, eh ben, c'est une nouvelle vie. On lui donne quelques cours de FLE parce que souvent, ce sont des femmes qui ont besoin aussi de faire une remise à niveau, pas scolaire, mais... primaire, je vais dire même. Et donc, voilà, c'est toutes ces actions. Et après, là, ce que je voulais dire, justement, moi, en tant que présidente, c'est que parce qu'au travers des comptes, il faut savoir aussi qu'elles font un travail formidable. C'est les quelques employés qui nous restent, puisqu'il ne nous en reste que trois, et avec des contrats aidés, et qu'on arrive plus ou moins à payer, parce qu'on leur partage ce qu'on reçoit. On n'a qu'une partie donc, de l'ASP, qu'il faut savoir, on n'a que 2000 euros d'ASP. Et donc, là, c'est que la personne qui a donc ses droits qui profitera du paiement de son salaire. Et les autres ne sont pas payés. Donc, après, on a une autre forme de contrat aidé pour l'accès aux droits avec Bernadette. Et elle, pareillement. Donc, mais après, c'est vrai que, par exemple, il nous reste un contrat de droit commun. Et elle, eh bien, elle attend toujours jusqu'à maintenant qu'elle soit versée parce qu'on peut pas. Ça fait plus de mois qu'elle n'a pas de salaire. Moi, je voulais, en tant que présidente, je voulais soulever cet incident qui est important, parce que c'est grâce à elle qu'on arrive au moins... On a des bénévoles, mais bon, il y a quand même une partie... il faut à la base une matière, et cette matière, ben, elle n'arrive plus à fonctionner. Hein.
Oui, donc Karima, tu voulais intervenir, poser la question.
Après, il faut vraiment parler de la situation, okay, actuelle. Moi, je voulais parler quand même de deux éléments qui sont à l'initiative de Sheba et qui montrent qu'effectivement, comme disait Nina, cette capacité et aussi sa présidente actuelle d'avoir cette écoute des populations de femmes qui viennent à l'association, dans l'association Sheba. La première, on en a parlé beaucoup, c'est les parents relais. Les parents relais, comment ils sont nés? Ils sont nés, effectivement, que du décrochage scolaire d'enfants qui touchait donc des familles, et particulièrement les mères qui étaient face à des décrocheurs scolaires, etc., et qui va en parler dans les ateliers d'écoute mis en place par Sheba, et qui va être à l'origine des parents relais, qui va mettre en place les parents relais, tout à fait entre l'école et les familles. Et mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une réponse favorable à l'époque de la DIV. La DIV, c'est la délégation interministérielle de la ville, qui va venir à Sheba, qui va prendre le pouls à Sheba de cette nouvelle réalité à laquelle sont confrontées les femmes. C'est à la fois le décrochage scolaire de leurs enfants, mais c'est à la fois aussi des femmes souvent seules qui n'ont pas les moyens financiers pour survivre. Et donc l'idée de Sheba, en mettant les parents relais, c'est en les formant, donnant des éléments linguistiques, etc. Mais aussi, elles ont un petit salaire, parce que c'était des contrats aidés. Et à la fois, c'est d'avoir un salaire, effectivement, à travers le contrat aidé, et à la fois de prendre conscience de l'importance de la scolarité de leurs enfants. Et la DIV va mettre en place les adultes relais, ce dispositif qu'on connaît depuis des années, que les associations aujourd'hui espèrent, comme le Saint-Esprit ou le Messie, d'avoir un adulte relais, tellement c'est devenu extrêmement rare, on le doit à Sheba. Le deuxième élément fort intéressant, parce que ça, il faut le rappeler, c'est le rajeunissement des populations impactées dans les réseaux de drogue. Et ça, les femmes de Sheba, et les mères de Sheba particulièrement, s'en sont rendues compte. Elles en ont parlé aux responsables de Sheba. Et moi, j'ai un souvenir encore très vivace, parce que tu m'appelles la mémoire, la passeuse de mémoire. Je vais avec la directrice de l'époque, donc Fatima Oulkadour, et puis je crois qu'il y avait Assiba, et on va voir le collège Édouard Manet, et on pose cette question au responsable, donc au principal et à son adjoint. Et là va naître l'accueil des enfants exclus du collège. Durant cette exclusion, ils vont être accueillis. Alors, ça ne pouvait pas être par Sheba. Donc, comme on avait un poste B au centre social Agora, c'était son rôle. Et la DAP pour la partie activité, etc., prise de conscience de l'acte qui a été posé par l'enfant en étant décrocheur scolaire. Mais ça, c'est vraiment important. Ça montre vraiment ces deux... C'est pas les seuls, évidemment, parce qu'elles en ont parlé. Mais cette capacité... Pourquoi Sheba évolue? Pourquoi Sheba existe, je dirais, jusqu'à aujourd'hui? Tu l'as dit, 40 ans après, Sheba est là. C'est parce qu'elle a cette capacité d'écouter l'évolution à laquelle sont confrontées leurs populations et d'essayer d'apporter des réponses. Aujourd'hui, c'est pas Sheba qui est le problème. C'est pas les populations. C'est aujourd'hui la puissance publique qui n'est pas en capacité d'apporter des réponses pour que Sheba puisse continuer à faire un service au public de ce quartier-là. Il est là le vrai problème pour moi.
Mais nous savons qu'il y a une priorité qui est dégagée par le gouvernement, qui est celle de la guerre, préparer la guerre. Donc voilà. Donc ceci étant, nous allons poursuivre. Alors concrètement, parce que l'heure tourne, il y a une autre émission à 15h, j'aimerais bien que Nina puisse dire comment ça se passe le quotidien à Sheba, compte tenu des difficultés financières. Nous savons que beaucoup d'associations se retrouvent un peu dans la même problématique financière. Alors comment réagir et comment faites-vous? Et si vous avez besoin d'un coup de main, parce qu'au fur et à mesure, on nous pousse vers une forme de mutualisation des moyens, tant humains que financiers, voir un peu quelles sont les possibilités et les passerelles possibles aussi. Qu'est-ce que tu en penses et quelles sont les difficultés auxquelles que Sheba se heurte aujourd'hui?
Aujourd'hui, notre grosse difficulté, c'est le financement. On fonctionne que sur du financement public. Il y a des appels à projets et il y en a de moins en moins. Les financeurs nous donnent de moins en moins d'argent. Donc, qui dit moins d'argent, moins d'action, moins de présence sur le terrain. Et ça, c'est hyper compliqué. Les adultes relais, certains ne sont pas renouvelés. Il n'y a plus de contrats aidés. Il y avait le contrat CEST, tous ces contrats, le CUI, tout ça. Il n'y en a plus actuellement. Donc, ça ne fait pas de contrats aidés, donc moins d'action aussi. Ça fait qu'on est peu de salariés, beaucoup, beaucoup de demandes, parce que la précarité, elle fait qu'augmenter dans nos quartiers. Et on fait face à une forte demande et une forte baisse de financement. Donc ça devient très très compliqué, on doit être sur tous les fronts, on doit faire les projets, on doit répondre aux appels à projets, on doit répondre aux tout ce qui est demande des habitants, aux problématiques, on s'adapte. Alors on n'a que 35 heures par semaine, on en fait sans compter, on commence à 9h, on rentre chez nous, des fois il est 21h. Et on se donne à fond, et les employés pareil, en sachant que les salaires ne sont pas versés depuis avril. Et on continue tous à travailler, à ouvrir comme si tout allait bien. Et on se dit à chaque fois avec nos collègues, avec le bureau et le CA, avec le CA et le bureau de Cheba, on ne peut pas fermer. On a plus de 500 adhérents. On a 100 femmes qui font des cours de français. On a entre 80 à 100 personnes qui font des démarches administratives par semaine. Vous vous rendez compte le nombre de personnes, on se dit, mais si, des fois on ferme juste 2 jours. Arriver lundi, c'est catastrophique. On a 10 personnes qui attendent les courriers, les mails, etc. Donc si demain on ferme, c'est un service public qui va fermer dans le quartier parce que quand même toutes les assos, elles remplacent le service public qui manque. Donc si on ferme, plus de liens sociaux, plus de liens sociaux, plus d'actions. Et les associations désertent les quartiers. Ça va être les trafics et tout qu'il faut
bien
prendre le relais.
Que ce sont les réseaux.
Donc les problématiques, on les rencontre, on essaye de faire face, mais au jour d'aujourd'hui, ça devient hyper, hyper compliqué de tenir. Parce que, comme je disais, on a vraiment un groupe de bénévoles qui nous aident, que ce soit dans le bureau ou même dans le CA, qui sont formidables. Et les salariés aussi qui lâchent rien et qui sont là parce qu'ils partagent des valeurs et qui ne veulent vraiment pas s'arrêter de travailler.
Vont se servir de ce bénévolat pour ne pas vous financer comme ils l'ont fait auparavant. Faire attention parce qu'il y a quand même une expertise et une professionnalisation qui est nécessaire face aux réalités sociales auxquelles les populations sont confrontées. Les bénévoles peuvent effectivement contribuer, mais ça ne remplacera jamais des gens qui ont
impossible.
Une formation.
C'est ce que j'explique aussi parce que
réunions avec les financeurs, ils nous l'ont carrément dit. Ils nous ont dit aller vers du bénévolat.
Mais oui. C'est juste pas possible parce que, j'explique que le bénévolement, ça peut être de 9h à 17h. C'est pas possible. Personne pourra être là du lundi au vendredi de 9h à 17h bénévolement.
Il y a
et les gens, ils ont besoin d'être payés.
Excusez-moi,
nous
savons qu'il y a Zoubida qui souhaiterait intervenir. Allô, Zoubida, oui. Juste, c'est le mot de la fin quasiment, compte tenu de l'heure qui nous est impartie. Zoubida, à toi la parole et le mot de la fin te concernant. Merci.
Merci. Non, moi, c'est important ce qui se passe au niveau de Cheba. On a vraiment de gros soucis. Ça me fait mal au cœur parce que, comme elle a dit carrément, on était quand même à l'initiative des adultes relais au niveau national. Moi, j'y siégeais. Ils se sont beaucoup inspirés, en effet, des actions qu'on a menées qui étaient innovantes. Tous les centres sociaux aujourd'hui ont des adultes relais, toutes les associations. Et l'objectif, c'était au départ de faire le lien entre les institutions et le territoire ou plutôt les familles. Aujourd'hui, ils en font un peu de tout et rien. Et je pense qu'il y a un problème politique parce qu'en fait, ils nous considèrent chaque fois que Cheba réexplique ce qu'elle fait et pourquoi elle existe et tatati et tatata. Ils tiennent pas compte de l'histoire. Puisque, comme vous le savez, les techniciens, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça change. On n'a pas des techniciens engagés ou rares pour cela. On a les délégués préfets, depuis qu'ils nous ont mis délégués préfets, autant il y en a d'histoire continuée, puisque en préfecture, on faisait partie des 4 associations au niveau du département qui étaient notifiées pour soutenir à haut niveau financier des financements de l'État. Il faut savoir qu'on était à 150 000 euros environ que de l'État. On est tombé aujourd'hui, je ne sais pas combien ils vont vous le dire, 130 000, même pas. C'est-à-dire qu'on a délégué préfet qui se prennent pour, moi je vous le dis, je l'ai vu, même en tant qu'élu, je l'ai vu, se comportent comme si c'était des maires de secteur. Il y a un véritable problème par rapport à ça. Et en fait, les collectivités qui ont de moins en moins d'argent parce que l'État se désengage sur pas mal de choses et les collectivités se retrouvent avec des surcharges financières et ils se retirent, mais encore ensuite, c'est très politique, voilà. Mais quand même, l'État qui devrait être un État financé de façon neutre et à l'écoute des habitants et côté régalien et solidaire, de solidarité, de rattrapage des inégalités, parce que là, nous, on dépend que de politique. Enfin, Cheba dépend beaucoup de la politique de la ville, très peu de financement de droit commun, et c'est un problème, ça. C'est-à-dire qu'en fait, les services politiques de la ville, ils s'en battent les flancs, au contraire.
Ils voient les locaux de chez Bas, par exemple, ça fait 30 ans qu'on les attendait, on les a eus que depuis 5-6 ans. Mais c'est un travail de 30 ans en amont. Ben, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, nous aussi, cool, tant mieux. Déjà, ils ont levé la paternité. Moi, je me suis battue. Je me suis prise de front avec les élus de la ville de Marseille. Pourtant, j'étais élue. Je me suis chopée, même avec cette maire actuelle. Je me suis chopée avec pas mal de services en disant, mais pourquoi vous faites ça? D'accord, elle a des difficultés actuellement. Mais vous en êtes la cause. La ville ne soutient pas. Elle soutient pas chez Bas. L'État ne soutient pas chez Bas. Et en fait, ils n'ont rien à tirer. Eux, leur première préoccupation, c'est de récupérer des locaux, de distribuer et de revenir, en fait, à l'étape des années 80, où pour lequel moi, je me suis battue beaucoup comme on s'est battue. C'est-à-dire de pas donner des miettes, mais de donner des vrais montants financiers pour aider les associations de quartier. Moi, professionnellement, moi, j'ai jamais voulu prendre j'ai toujours dit les financements de la Sanchez-Bas, c'est pour les gens de quartier. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais voulu travailler sauf quand il a fallu intervenir en tant que formateur, qu'on n'avait pas les moyens, etc. C'est autre chose. Mais le but, c'était quand même pour les habitants, au niveau économique, et l'histoire des adultes relais, c'était bien lier l'économique aux besoins, donc donner une aide. En même temps, ils sont utiles. L'idée de l'utilité publique, ça, on n'en entend plus parler. La notion d'auto-organisation, on n'entend plus parler. Et en fait... ils n'en ont rien à foutre, ils donnent 2000 euros à tel asso qui vient de naître depuis 2 ans, ils leur donnent même 5000, ils font leur campagne, ils leur donnent et puis ils sont appuyés par l'État. C'est-à-dire que moi j'ai vu aussi le système où les services de l'État, pas tellement les techniciens qui sont dedans, mais ceux qui décident, c'est-à-dire comme les délégués préfectats, je ne dis pas encore aujourd'hui que nous sommes tous pareils, c'est pas vrai, mais nous on a un gros souci sur le Grand Saint-Barthélemy, peut-être d'autres territoires, mais il y a un gros problème. Merci. Et de formation et de compréhension du territoire. Je pense que ces politiques ne veulent pas que de l'auto-organisation, des associations qui sont citoyennes comme chez Bas ou d'autres, et en fait, ils soutiennent des petits bribes, 3 mètres là, 3 mètres ici, et en fait, ça leur fait, mais les gens des quartiers ne sont pas suffisamment aidés, ne comprennent pas leur situation.
Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup.
Et je pense que chez Bas aussi, trop gentil, ce n'est pas les mêmes leaders.
Zoubeda, merci,
nous,
merci.
Nous, on était méchants.
Merci. Merci de ton intervention par téléphone. Au plaisir de se revoir. Alors, le mot, oui, vas-y.
Ça a été quand même un centre de formation pour les emplois familiaux. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de familles qui ont été, de femmes du moins, qui ont pu travailler par la suite. Et ça a créé des dizaines, à savoir même des centaines d'emplois.
Oui, alors le mot de la fin, quasiment, excepté pour Nina aussi, qui devra annoncer pour le vendredi 3 aussi, parmi les communiqués. Vas-y, alors le mot de la fin concernant chez Bas, tu tirais la sonnette d'alarme sur la situation de chez Bas. Donc, voir un peu qu'est-ce qu'il faudrait, comment agir pour que chez Bas puisse être entendu.
Ben écoute, de la reconnaissance, je pense qu'on manque de la reconnaissance des financeurs qui reconnaissent le travail des associations de quartier, chez Bas et tant d'autres qui sont dans la même situation et qui débloquent des fonds pour aider toutes ces associations qui sont à bout de souffle, qui sont en train de tous mourir l'une après l'autre. Et après, il ne faudra pas se plaindre des conséquences qui vont suivre. Et donc, plus de l'aide des financeurs et des fondations, s'il y en a qui écoutent, aider les assos comme chez Bas. Voilà.
Et oui. Le mot de la fin pour toi, présidente actuelle de chez Bas.
Moi, je veux dire que franchement, actuellement, je suis dans une... vraiment, une tristesse quand même, parce que quand on a créé, comme dit Zoubida, on s'est battu pendant 40 ans, et il y a eu peut-être des centaines de femmes qui se sont battues pour obtenir tout ce qu'on a obtenu, et que là, on voit qu'on est vraiment dans le dénigrement quoi, de l'association. Comme dit Nina aussi, on n'est pas reconnu. C'est un comité de soutien aussi. Faudrait peut-être qu'on crée justement un comité de soutien pour l'association. Peut-être, ça serait bien. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport... parce que les mœurs changent, et moi, ce que j'analyse avec le temps... c'est que les mœurs changent, les gens aussi, quand même, les mentalités dans les quartiers, malgré tout ce que tu dis, tout l'historique de sociopolitique, tout ça. Et même les bénévoles, maintenant, ne peuvent plus être bénévoles. Parce que la situation est tellement difficile. Moi, je sais, j'ai discuté avec des bénévoles. Elles sont là, elles sont bénévoles, mais à un moment donné, elles vont vous dire... et voilà, nous on mange, bon, écoute, moi, cette semaine, je ne pourrais pas venir parce que je dois aller chercher un travail. Je dois aller. Donc, il faut vraiment que les politiques et les financeurs comprennent comprennent cette situation et comprennent que, justement, comme tu dis, il faut qu'il y ait il y a des gens, des professionnels, restent quand même au sein de l'association, parce que quand on doit faire toutes des recherches, des analyses, tout ça, ce sont des gens qui ont quand même des compétences et des formations, comme l'ont été jusqu'à maintenant toutes nos associations dans les quartiers et au sein de Sheba aussi. Et c'est ce qui a fait évoluer, comme tu disais, l'association au travers de ces années. Et donc, il faut, c'est tout simple, un minimum de financement. Quand moi, je regarde dans les finances qu'on doit payer des factures d'EDF, mais ce n'est pas les bénévoles qui vont nous payer, même si nous, on va un peu aider. Ce n'est pas les bénévoles qui vont nous aider à payer les frais d'EDF dans nos locaux. Et on est obligé de tous ces frais, ces charges. Je pense qu'ils n'en sont pas conscients. Je voudrais aussi dire que, comme a dit Nina juste avant, c'est que le jour, et j'espère pas, où Sheba, et ça, de toute façon, on fera tout pour que ça ne soit pas réalisé, soit plus existante, il y aura encore de plus gros problèmes dans les quartiers, parce que justement, c'est au travers, je le dis, des mamans que les communications se font et les évolutions se font, et c'est au travers justement de toutes ces actions qui sont menées. Voilà, ça il faut le savoir. Moi, je sais que j'ai eu et travaillé beaucoup en bénévole, et quand on faisait l'information de drogue, on a sauvé beaucoup de familles où on a dit attention ton enfant là, on l'a vu, il faut faire attention, il faut l'informer. C'est au travers des trucs franchement des fois tout simples qu'on peut sauver des situations et des familles dans ces quartiers. Donc voilà, c'est tout simple ce que je dis, mais voilà, je voulais quand même le préciser.
Merci Najette. Alors rapidement, alors Nina, juste pour dire, tu as dit ce que tu l'appelles, que tu as lancé pour essayer d'aider Sheba, nous comprenons un peu les difficultés dans lesquelles se trouve Sheba, et d'autres diront aussi qu'elle se retrouve en difficulté, mais par rapport à l'ampleur de travail que vous accomplissez, effectivement, c'est qu'il faut que Sheba puisse continuer à vivre et à pérenniser leurs actions. Ceci étant, vous continuez malgré tout, et parmi les communiqués, c'est aussi. Et pour vendredi prochain, il me semble qu'il ne faut pas que l'on puisse oublier aussi qu'il y a une forme de solidarité internationale que nous devons avoir, ne serait-ce que par rapport pour le peuple palestinien.
Oui, justement, une solidarité, ce n'est pas que dans nos quartiers, c'est aussi une vision de voir la vie, et automatiquement, on soutient les peuples qui sont opprimés dans le monde. Et pour ça, on a la cause palestinienne qui nous tient à cœur. Et on va recevoir Fadwa Barghouti, qui est la femme de Marwan Barghouti, qui est emprisonnée depuis 24 ans en Israël. C'est un député palestinien. C'est comme dit Karima et tout le monde, le Mandela palestinien. On a cette chance, elle vient en France pour 4 jours, je crois, pour que un parti sur Paris va lui donner, pour son mari, le citoyen d'honneur. Donc elle va passer par Marseille. Et elle va surtout passer par Sheba. Donc elle sera vendredi 3 juillet. Alors si je ne vous dis pas n'importe quoi, c'est 17h. Voilà. Vendredi 3 juillet à 17h à Sheba. Donc on aimerait bien
Sheba
que...
Sheba différents locaux, alors précise lequel.
Alors c'est au bâtiment G3 à la Busserine, G3. Et c'est au 52 rue Maboubitir, bâtiment G3. Le 3 juillet à 17h, donc on aimerait bien l'accueillir, on va le faire un style de grand goûter, et l'accueillir avec, commencer à accueillir dans nos quartiers, et avec autant de soutien qu'on peut avoir des femmes et des hommes qui partagent toutes nos valeurs.
Eh bien, nous vous remercions d'être venus, d'avoir pu participer aux Échos du Grand Saint-Barthélemy, parce qu'au
Merci
bout de
la
commune d'année, que malgré tout, que vous... Bon, ceci étant. Donc, nous allons rapidement, il y a différents communiqués, mais compte tenu de l'heure, nous ne pourrons pas les communiquer. Mais il y a notre ami Saïda qui souhaite terminer avec un morceau qui est très connu et reconnu, n'est-ce pas? Y compris Swan ici présentement, qui connaît bien ce morceau, qu'il apprécie.
Raina Rai de... Non, c'est Raina Rai, Zina.
Ah ouais.
Musique. Musique, Sidi.
Merci Sidi, merci Swad, et merci à vous d'être venus.
Merci. Allez. Oh,
يا سينا راني مهما